pas juste dans la neurodiversité, mais même dans la conception du travail, en tout cas de moi, ce que je vois autour de moi. Les gens veulent s'épanouir. Mm-hmm.
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 33. Est-ce qu'on peut étudier le bonheur? Avec Catherine Simon-Paquet. Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Allô, chers auditoires, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on revient en force avec une invitée aujourd'hui, qui est Catherine Simon-Paquet. Je suis vraiment excitée de la recevoir avec nous aujourd'hui. Donc, pour interviewer cette invitée toute spéciale, j'ai Fran avec moi. Ça va, Fran?
Oui, ça va et toi?
Oui! Donc, sans plus tarder, on est ultra heureuse de vous présenter Catherine Simon-Paquet, qui est en fait candidate au doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal, qui est une blogueuse, instagrammeuse de feu, qui a aussi son podcast. Puis dans le fond, je voulais la recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse parler notamment de psychologie positive, de douance et de la complexité qu'il y a derrière tout ce qui est recherche en psychologie. Donc, allô Catherine!
Allô, merci de m'avoir invitée. Je suis super contente de parler avec vous aujourd'hui.
Moi, je suis super contente parce que, ben, Catherine, tu es notre première invitée 2022. Là. Je ne sais pas si tu te rends compte de comment tu ouvres le bal. C'est super le fun. Moi, je suis vraiment, vraiment contente qu'on recommence à avoir des invités. Puis une invitée de ta qualité, c'est extraordinaire. Donc, merci d'être parmi nous.
Merci, c'est gentil.
Puis en plus de dire que Catherine, en ce moment, elle est en direct de la Belgique. Donc, c'est une candidate doctorale nomade.
Oui, c'est international.
On aime ça.
Donc, Catherine, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours? On veut tout savoir sur toi aujourd'hui.
Dévoile-toi.
Mais oui, moi, en fait, je suis doctorante à l'UQAM en psychologie, mais avant, j'ai aussi fait une maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal et aussi un baccalauréat. En fait, ce qui m'a amenée vers la psychologie, c'est vraiment les relations humaines. Donc, je m'intéressais beaucoup aux relations parents-enfants et aussi aux relations de couple, toutes les relations d'amitié. Je suis tombée en amour avec la théorie de l'attachement, puis ensuite, je voulais étudier ça. J'ai aussi fait un détour, j'ai travaillé en autisme, puis en fait, j'ai tellement d'intérêts variés que parfois, c'est ça, j'ai tellement de la difficulté à choisir ce qui m'intéresse le plus, là, mais je pense que ça va résonner avec certaines ou certains de vos auditeurs.
Ouais, puis je me souviens dans les conversations qu'on avait eues, tu sais, il y avait cette... Généralement, en psychologie, les gens vont être très spécialisés, puis toi, ben, t'as tellement d'intérêts vastes que tu papillonnes, mais en même temps, tu sais, cette je pense que ça t'apporte cette vue-là sur comment les choses peuvent se recouper, puis de... Ben, je pense que ça va être la créativité beaucoup, hein, ces tendances-là à vouloir voir plus large qu'une seule spécialité.
Ouais, c'est ça, il y a tellement de domaines qui se recoupent, puis souvent on va essayer de quantifier certains phénomènes, on va leur donner plein de noms différents, mais au final, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui sont vraiment universelles, puis... c'est qu'on peut mieux comprendre en utilisant différentes lunettes, là. Entre autres, justement, aujourd'hui, on va parler de la psychologie positive. Ben, on peut regarder plein de concepts, là, à partir de cette théorie-là, si on veut. Puis, en gros, la psychologie positive, c'est vraiment d'axer sur les forces des gens, de vouloir développer un certain bien-être, un épanouissement personnel, là. Souvent, on dit que c'est de développer une vie qui en vaut la peine. Mmh. Puis, c'est ça.
Non, j'allais dire, puis la psychologie positive, c'est vraiment un concept qui est étudié et documenté. Là, on n'est pas dans une notion de psychopop et de recette. Là, on est vraiment dans un concept théorique, en fait.
Oui, c'est ça. C'est vraiment une théorie ou un point de vue scientifique, si on veut, là, qui a été popularisé au début des années 2000. Puis c'était un chercheur, le Martin Seligman, qui a étudié avant la résignation acquise. Là, donc, c'était les animaux qui, à force d'avoir des chocs, devenaient résignés, en fait, ne voulaient même plus s'en sortir. Mais c'était très dans la souffrance, en fait, ce qu'il étudiait. Puis à un moment donné, dans sa vie à lui, où il s'est dit « Hey, j'aimerais ça étudier ce qui va bien ». Chez les êtres humains. Puis c'est comme ça un peu que le nouveau courant, disons, de la psychologie positive est né, là, parce qu'avant, il y avait aussi d'autres théories dans ce sens-là, là. Mais lui a vraiment mis l'accent sur les recherches scientifiques. Donc, il s'est dit, il faut absolument qu'on étudie qu'est-ce qui fait en sorte que les gens trouvent un sens à leur vie. Mm-hmm. Que les gens vraiment s'épanouissent au travail ou dans leur relation ou à l'école. Donc, c'est vraiment effectivement nouveau parce qu'on étudie ça scientifiquement.
Puis, question pour toi, autant chronologiquement que conceptuellement, le recroisement avec la psychologie humaniste, par exemple, se manifeste comment?
Ouais, mais la psychologie humaniste, ça a été développé avant. Dans le fond, avant ce courant-là là, qui est plus nouveau, disons, mais dans la psychologie humaniste, on voit beaucoup de concepts plus théoriques dans le sens où c'est les idées, c'est très appliqué en termes d'intervention. Là, on va voir des thérapies, des psychothérapies humanistes et tout ça, mais c'était pas autant empirique, je dirais. Là, okay. On essaie vraiment de quantifier là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est bien, en fait, là.
Donc, pour les gens qui sont peut-être moins, justement, qui ont moins de connaissances avec ces différents courants-là de la psychologie, tu sais, si on compare aussi avec, là, t'apportes l'approche humaniste, Fran, la thérapie cognitivo-comportementale dans tout ça, c'est un complément, c'est une autre façon de travailler, comment est-ce que ça se compare entre les deux? Parce que généralement, c'est beaucoup ça que les gens vont travailler avec leur thérapeute. Fait que si quelqu'un écoute l'épisode, puis va voir son psychologue, puis dit « Hey, j'ai entendu parler de psychologie positive », c'est comment est-ce que ça s'intègre dans tout ça, là?
Ouais, mais en fait, c'était des courants plutôt parallèles. Mm-hmm. La thérapie cognitivo-comportementale, il y a aussi plusieurs vagues. La dernière vague, là, celle de l'acceptation et de l'engagement, on peut dire qu'il y a plusieurs recoupements avec la psychologie positive. Entre autres, là, on va regarder la pleine conscience, ce qu'on appelle la présence attentive, on va voir les valeurs, de vouloir poser des actions en cohérence avec nos valeurs. Il y a plusieurs choses qui vont se recouper, mais effectivement, en termes de théorie, c'est quand même des courants qui sont un peu parallèles, là, qui sont pas tellement interreliés, bien que les idées se recoupent beaucoup.
OK. Fait que c'est vraiment plus des spécialités, dans le fond, en psychologie. Donc, un psychologue va se spécialiser plus en cognitivo-comportemental ou en psychologie positive.
Oui, on peut dire ça. Par contre, je tiens à mentionner quand même que la majorité là, des psychologues vont étudier plusieurs approches, puis vont faire comme un petit melting pot, là, ils vont mélanger ça, puis développer leur propre approche, là, qui est vraiment comme leur couleur à eux. Là. Donc, c'est super important quand on cherche un psychologue de trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui ça clique. Parce que justement, tu sais, un psychologue, en fait, au Québec, ils ont tous des doctorats. Donc, ils ont quand même un certain jugement critique, là. Ils vont lire plein de choses, de plein de courants différents, mais ils vont développer leur propre approche à eux, là.
OK.
Donc, il y a un fit en termes d'approche, puis un fit en termes d'alliance et de personnalité aussi, là, en fait.
Oui, c'est ça, l'alliance, c'est vraiment un des plus grands prédicteurs là, du succès d'une intervention, là. Si on a confiance envers l'autre personne, c'est sûr que ça va fonctionner mieux.
Effectivement.
Puis ça me fait penser à deux choses que j'ai envie d'apporter à la table. Dans un premier temps, tu sais, la psychologie positive, une des raisons pourquoi j'étais vraiment contente que tu viennes, c'est parce que la première fois que je t'ai connue, que j'ai entendu parler de toi, c'était dans un webinaire sur la psychologie positive et la douance qui est animé avec une clinique spécialisée là-dedans, que j'ai oublié le nom, si jamais...
C'est Marine Miglianico, qui a la clinique de psychologie positive de Montréal.
Parfait, super, merci. Puis, tu sais, la façon dont, en fait, la psychologie positive, je trouve que ça vient bien rejoindre le courant de la neurodiversité, c'est que l'approche étant basée sur les forces, ben on sort du paradigme médical où on essaie toujours de travailler sur les défis puis les troubles associés. Fait que, de un, ça, c'est pour ça que je trouve que ça vient me chercher beaucoup. Puis aussi, ben en termes de l'approche en coaching, j'en ai parlé souvent dans les épisodes parce que moi, c'est l'approche que j'utilise. Fait que, tu sais, je m'inspire de l'approche de la psychologie positive, n'étant pas, évidemment, psychologue, mais les différents outils qui peuvent être utilisés, tu sais, comment est-ce qu'on peut les transcrire dans une relation de coaching. Fait que ça se décline à différents types de professionnels aussi, cette approche-là.
Oui, mais je peux faire du pouce sur le commentaire slash question de Mélissa. J'ai envie de dire que ce que je connais de la psychologie positive, et tu pourras me renforcer ou m'infirmer dans mes croyances, Catherine, c'est aussi cette notion qu'il y a beaucoup de choses faciles à appliquer, même dans un quotidien professionnel, par exemple, ou dans un quotidien introspectif avec soi-même, et que ça nous éloigne un peu des notions de normes et de comparaison. On parle plus de la personne par et pour elle-même, comment elle peut atteindre son bien-être puis réaliser son plein potentiel, finalement.
Oui, c'est vraiment intéressant ce que vous dites toutes les deux, absolument. La psychologie positive, effectivement, ça a été beaucoup utilisé dans le coaching. Donc, c'est vraiment d'amener la personne à s'épanouir, à se développer, à servir de ses forces de caractère, ses forces intrinsèques pour développer une vie qui est à son image, en fait, là. Puis, comme tu dis, c'est ça, c'est vraiment individualisé. Donc, effectivement, surtout dans le courant empirique là, dont je parlais, on essaie vraiment à la fois de comprendre des groupes de personnes. Par exemple, quand je parlais de douance, ben, il y a des études qui vont regarder est-ce que les personnes douées sont plus ou moins, vivent plus ou moins de bien-être que les autres personnes. Mais il y a aussi des études qui vont plus se concentrer au niveau individuel, effectivement. Qu'est-ce qui fait en sorte que les personnes sont bien? Donc, on va leur demander, il y a des études qualitatives, par exemple, où on va interviewer des personnes, on va leur demander qu'est-ce qui, toi, donne un sens à ta vie? Et qu'est-ce qui donne un sens à ton travail? Qu'est-ce qui fait en sorte que t'es bien au travail? Entre autres, là, je pense à une étude récente là, qui est sortie sur le bien-être au travail chez les personnes douées. Puis, tu sais, il y a plein de choses qui sortaient, mais entre autres, qu'ils avaient besoin de trouver un sens à leur travail, qu'il fallait absolument qu'ils comprennent pourquoi ils faisaient ça. Effectivement, c'est ça, il y a des études plus qualitatives, comme je disais, où on leur demande, mais il y a aussi des études plus quantitatives où on leur fait remplir des questionnaires sur, justement, qu'est-ce qui donne un sens à leur vie, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils s'épanouissent, qu'ils sont bien.
Est-ce que, Mélissa, tu trouves que c'est une belle réponse pour nous amener vers les enjeux de recherche? Parce que je trouve que, moi, ça me suscite déjà plein de questions.
Ben oui!
Tu sais, c'est facile de parler de recherche, mais c'est pas quelque chose qui est connu ou accessible à tous et à toutes. Donc, est-ce que si on voulait vulgariser un peu cette notion de recherche, bon là, tu l'as fait qualitative, quantitative, c'est cette notion d'aller analyser le contenu ou plutôt d'aller quantifier, aller travailler avec des coefficients. Mais il y a quand même des gros enjeux et des finesses dans la recherche, surtout dans le champ des sciences sociales. Puis je ne sais pas si tu as envie de te prononcer là-dessus, même si ma question est très large en immédiat, Catherine.
Mais oui, c'est ça. Effectivement, c'est super compliqué de faire de la recherche sur des êtres humains. Puis ça, c'est quelque chose qui est effectivement très relié aux sciences sociales, si on veut, ou à la psychologie humaine. Parce qu'il y a beaucoup d'études là, qui sont faites sur les animaux, entre autres sur les souris, là, il y en a tellement, il y a même sur les primates. Mais là, on regarde un être humain. Puis c'est tellement compliqué. Puis dans votre podcast, je trouve que vous en parlez bien, là, puis beaucoup de la neurodiversité, là, de la diversité du cerveau humain, à quel point on est tous différents. Et ça, c'est vraiment important à considérer quand on fait des recherches en psychologie. De plus en plus, on essaie de développer des statistiques, des méthodes mathématiques pour mieux rendre compte de cette diversité-là. Mais c'est difficile. T'sais. Souvent, on va prendre des groupes de personnes, comme je disais tantôt, douées ou groupes contrôle, qu'on va dire toutes les autres personnes. Puis là, on va les comparer, on va faire des comparaisons de groupes, mais ça a ses limites. Là. Quand on fait des comparaisons de groupes, on généralise à tout le groupe, alors qu'on sait très bien que parmi les personnes douées, les gens sont tellement différents. Mm-hmm. Donc, oui, il y a tellement d'enjeux là, dans la recherche pour bien représenter les gens qu'on étudie, en fin de compte.
Puis, oui, c'est ça. Puis, excuse-moi, j'ai 157 commentaires et questions. Là, ça pop-up de tout bord, tout côté dans ma tête. Mais tu sais, moi, un constat que j'avais fait aussi, c'est que on va dire l'héritage d'un discours très médical est encore très perceptible dans les recherches plus au niveau de la neuropsychologie, psychologie, etc. Il y a cette notion de norme qui est un peu nécessaire aussi pour se donner des référents de comparaison. Mais ce que ça crée, c'est que ça diminue la prise en compte de toutes les formes d'intersectionnalité en général et toutes les complexité, les nuances qu'on peut trouver d'un individu à l'autre. Puis c'est là où je me dis, il y a presque une utopie dans cette volonté de comprendre l'être humain parce qu'on ne pourra jamais réellement comprendre de manière généralisée. Il y aura tout le temps comme matière à creuser plus ou à individualiser plus.
Oui, bien, je pense que c'est vraiment important de rester humble. Ça, j'en parle quand même souvent là, quand je fais de la vulgarisation scientifique, là, de l'humilité de la personne qui fait des recherches. C'est clair là, qu'on ne pourra jamais tenir compte de tous les facteurs là, qui peuvent influencer le développement d'une personne. Mm-hmm. Puis, moi, je suis spécialisée en fait en développement humain, donc je regarde comment les personnes changent à travers le temps. Puis, qu'est-ce qui va influencer cette trajectoire-là à travers le temps? Il y a tellement de facteurs. Là. Il y a les parents, l'école, l'éducation, la culture, le lieu où on grandit, que ce soit notre quartier, notre province, notre pays. Il y a tellement de facteurs à différents niveaux qui vont influencer notre développement. Mm-hmm. Effectivement, dans les études, on ne peut pas tenir compte de tout ça en même temps. Et c'est ça, je crois qu'on doit vraiment garder une certaine humilité. Puis, je pense aussi que ça vaut la peine de dire qu'effectivement, là, la recherche, se veut de plus en plus participative, au mm-hmm. sens où on essaie de plus en plus d'inclure les gens qu'on étudie dans notre recherche. Puis ça, c'est comme la base, mais longtemps, ça n'a pas été fait. T'sais, si on pense à l'autisme, par exemple, ben, c'est vraiment important qu'il y ait des personnes autistes dans l'équipe de recherche.
Mm-hmm.
Si on parle de la douance, ben, ça serait aussi important qu'il y ait des personnes douées dans l'équipe de recherche. T'sais, c'est comme, on doit travailler en partenariat.
Oui. C'est vrai que ça ressortait beaucoup le, dans mes recherches de mon côté. On parlait beaucoup des personnes sans même les consulter. Ou je me souviens que ce qui m'avait marqué, on faisait des études sur le niveau d'inclusion d'une personne autiste en milieu de travail, mais en questionnant le gestionnaire et les collègues, mais pas la personne concernée. J'étais comme, ben là, son sentiment d'inclusion, son sentiment d'appartenance, son sens au travail, non, ça comptait comme pas dans les données, mais je sais aussi qu'on a tout le temps besoin de faire des choix en recherche aussi, hein, donc nécessairement, on étudie certaines variables, on ne peut pas toutes les considérer, donc ça rend la posture objective complexe, parce que ne serait-ce que par le choix des variables, on a un biais.
Oui, c'est ça, puis le choix des hypothèses, le choix de ce qu'on va étudier, c'est vraiment mm-hmm. important, c'est ça, je pense que d'avoir des personnes qui sont différentes, en fait, là, dans les différentes équipes, pour donner différents avis, des idées aussi de recherche mm-hmm. qui seraient pertinentes, là, qui auraient des retombées intéressantes. C'est super important, en fait, là, parce que si on les inclut pas, ben, on peut pas nécessairement savoir ce que ces personnes-là ont besoin non plus.
Non, exactement, exactement. Puis, tu sais, quand je t'avais parlé, puis qu'on avait parlé de ce sujet-là, ça venait beaucoup du... tu sais, quand j'ai lu le livre Neurotribes, qui fait vraiment le portrait historique de l'autisme, quand que tu lis là, les chapitres sur l'historique au niveau de la recherche puis de l'autisme, c'est absolument effrayant. Je pense que j'ai pas d'autres mots à quel point c'est catastrophique ce qui s'est passé entre les années 1940 et 2000. Puis tout ça est venu teinter beaucoup les études encore aujourd'hui. Fait que, il va y avoir des nouvelles études qui vont émerger où ce que justement le mouvement de la neurodiversité puis le mouvement du « Nothing about us, without us » a pris de l'ampleur, où ce qu'on espère, on commence à voir des changements. Mais c'est ça, t'sais, vous, quand vous faites la recherche, c'est à quel point est-ce que vous êtes en mesure de bâtir ou de ne pas bâtir sur ce qui est existant pour effectuer des nouveaux postulats ou effectuer des nouvelles hypothèses?
Mais c'est certain que moi, je vais parler de mon expérience à moi, là, oui. De mon courant de recherche, là, qui est vraiment comme quantitatif et empirique. Nous, c'est certain que quand on pose une hypothèse, on doit s'appuyer sur la littérature existante.
Mm-hmm.
Donc, c'est quand même un instinct qui est juste là, de dire qu'on doit absolument avoir d'autres articles avant qui ont étudié certaines choses, qui ont montré certaines choses, ou un ancrage théorique, là, donc une mm-hmm. théorie qui va nous amener à poser certaines idées là, ou certaines questions. Mais après ça, c'est sûr que je pense que la communauté scientifique est de plus en plus ouverte aux innovations, aux choses mm-hmm. qui sont nouvelles, surtout en termes de diversité. C'est quelque chose qui touche beaucoup les gens en ce moment. En tout cas, moi, je le vois beaucoup, là, je travaille beaucoup en développement d'enfants, comme je disais, puis il y a une réelle volonté là, d'inclure des personnes qui sont typiquement sous-représentées dans les études, que ça soit même au niveau racial, en fait. Là, les personnes noires ont été tellement peu étudiées ou étudiées de façon tellement peu correcte là, qu'on on veut vraiment régler cette situation-là et de faire de la recherche qui est plus juste et respectueuse, les premiers peuples et tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté d'inclure des personnes différentes qu'on n'étudiait pas avant. Là.
Mm-hmm. C'est rassurant quand t'apportes ces choses-là.
Mais je pense que ça brasse beaucoup la cage. Là. Je pense que y a beaucoup de personnes qui ne savent pas nécessairement comment faire, donc ça va être quand même assez long. T'sais, on essaie de trouver des solutions, puis veux pas, on est dans un milieu où c'est très capitaliste, là, très productif. Là, on doit publier beaucoup, souvent on doit faire des congrès partout, on doit être tellement productif. Puis parfois le travail collaboratif, ça prend du temps. Mmh. Développer un lien avec les participants, de vraiment essayer de les comprendre. Je veux dire, c'est long. C'est mmh. quelque chose qui n'est pas dans ce paradigme-là de publier plein d'articles dans une année, tu sais.
Non, pas du tout. Comme tu dis, le temps de... Ben là, c'est plus du quantitatif, mais j'essaie de me dire dans des contextes plus qualitatifs, l'impact de la relation doit être important aussi. Puis là, c'est là où ça devient quasiment... Mais presque paradoxal tout ça, parce qu'on veut étudier la relation, mais dans des contextes où les relations ne sont pas nécessairement existantes ou établies, ou s'il n'y a pas d'alliance. Excusez, ça crée de la confusion dans mon esprit en ce moment.
Non, mais c'est vraiment une idée qui est intéressante, là, puis qui est importante, même pour le quantitatif. En fait, si, par exemple, je veux étudier une population autiste ou neurodivergente, une population douée, une population dans des premiers peuples, par exemple, mais même mm-hmm. si je veux faire des analyses quantitatives, là, leur faire remplir des questionnaires, je veux dire, ça prend quand même un lien de confiance, là. Eux me donnent des données, des informations qui sont personnelles, qui sont vraiment comme précieuses, en fait. Donc, il faut que ces personnes aient confiance en moi, que je ne ferai pas n'importe quoi avec ça, que je ne vais pas les interpréter n'importe comment, puis dire des choses qui n'ont aucun sens. Mm-hmm. c'est un lien de confiance, en général, là, quand on fait de la recherche auprès d'une population.
Oui, puis à tout ça, se mêle, bon, ben, y a toujours les biais de désirabilité sociale. Mais à ça s'ajoutent même d'autres notions, ne serait-ce qu'au niveau de la théorie des schémas, je veux dire, la façon que les gens vont se percevoir ou penser que l'autre doit les percevoir. Il y a tellement d'interactions possibles, puis il y a énormément de choses qui sont inconscientes chez nous en tant qu'individus aussi. T'sais, on répond toujours au meilleur de nos connaissances, mais des fois, on n'est même pas sûr de « est-ce que je réponds la version idéalisée de moi ou est-ce que je réponds la version que je suis réellement? » Il y a des moments où c'est complètement fusionné, ces images-là, puis on n'est pas sûr de qu'est-ce qui appartient à quoi non plus, hein.
Oui, c'est ça. On étudie beaucoup les perceptions que les gens ont d'eux-mêmes ou de leur situation. Il y a certaines méthodes, comme moi, j'aime beaucoup les méthodes observationnelles. Donc, on va vraiment aller comme dans le milieu de la personne. Comme moi, par exemple, j'étudie des familles. Donc, je vais aller dans les maisons et on les filme durant un temps. Comme dans ma maîtrise, on les filmait une heure et demie, une heure de leur vie, une fois par année. Puis ensuite, on regardait ces interactions-là. Donc là, effectivement, on a accès à une information qui est peut-être un petit peu plus observationnelle, objective, moins dans la perception de ce qui se passe. Comme moi, je me positionne comme observatrice, dans le fond, puis je regarde qu'est-ce qui se passe. Et là, on a, comme je disais, une méthode un petit peu différente. Mais effectivement, là, la majorité des études en psychologie, c'est beaucoup la perception que la personne a de sa situation et d'elle-même. Puis, effectivement, s'il y a des biais de désirabilité sociale où la personne veut paraître d'une certaine façon, bien, effectivement, ça va un petit peu biaiser les résultats.
J'aime ça. C'est tellement toutes les notions de complexité en ce moment qui interagissent. J'adore ça.
Puis ça me fait penser, j'ai envie d'aller, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, la douance, c'est vraiment un sujet que tu apprécies beaucoup, tu sais, en ce moment dans tes études, tu travailles au niveau justement des relations des familles, mais c'est, en tout cas, c'est comme ton dada un peu, la douance, de ce que j'en comprends, de ce que je vois de l'externe. Puis la semaine passée, tu vois, on parlait dans l'émission à quel point, tu sais, au niveau de la douance, puis je dis la dernière épisode, mais on en parle souvent, à quel point, tu sais, au niveau de la douance, la recherche... c'est assez embryonnaire slash personne s'entend vraiment. Là, il y a un recueil qui est sorti, La psychologie du haut potentiel, qui est jusqu'à présent l'ouvrage le plus complet sur le sujet. Mais il y a beaucoup de livres qui, comme par exemple « Trop intelligent pour être heureux » de Jeanne Siofachin, qui n'est pas nécessairement 100% inapplicable, mais qui est comme un peu la Bible, la douance, mais basée sur des études, pas sur des études, sur une expérience clinique. Fait que quand on essaie de départager toute l'information sur laquelle on tombe, ça peut être complexe parce que là, tu vas avoir des études, des articles scientifiques, tu vas avoir des livres comme ça, ou ce que si tu ne sais pas que c'est quelque chose qui est vraiment bâti autour d'une expérience clinique, c'est difficile de départager peut-être un peu plus les nuances qui seraient applicables. Ça serait quoi ton conseil, dans le fond, pour les auditeurs qui écoutent, que ce soit un gestionnaire qui essaie de mieux comprendre ou quelqu'un qui essaie de mieux se comprendre pour avoir un regard critique par rapport à tout ce qu'il y a comme documentation, là.
En sachant que tout le monde n'a pas accès à la littérature scientifique non plus.
Non plus, exactement.
Ouais, c'est vraiment une bonne question. En fait, là, même moi, des fois, je me demande, « My God, comment je vais faire pour faire du sens de tout ce que je lis? » Parce qu'effectivement, on lit tellement des choses qui sont... qui disent une chose et son contraire, en fait, là, qui sont très paradoxales. Je pense que la vérité se situe probablement au milieu de tout ça. T'sais, dans le sens où on lit beaucoup d'extrêmes, souvent, effectivement, les observations cliniques ne vont pas correspondre à ce qu'on voit en recherche. Puis on sait que les deux différentes approches ont leurs limites. Par exemple, si on parle d'un psychothérapeute ou d'une psychologue, cette personne-là voit des personnes qui ont généralement des problèmes dans le sens où mm-hmm. elles vont consulter pour une raison, là, parce qu'elles veulent régler certaines choses. Et en recherche, ben, comme je disais tantôt, souvent on a de la difficulté à aller chercher les différences individuelles, à vraiment mieux comprendre les nuances dans la vie des gens, les processus qui vont mener à certaines conséquences. Donc, c'est sûr que la réalité elle, se situe sûrement entre les deux. Comme par exemple, si on parle du perfectionnisme, souvent les parents, les enseignants, les psychologues vont rapporter que les personnes douées sont très perfectionnistes, puis que c'est vraiment quelque chose qui va leur nuire. Mais pourtant, en recherche, souvent, on voit pas de différence entre les personnes douées puis les groupes contrôle dans le perfectionnisme. Donc là, ça crée vraiment un problème parce qu'on se dit, ben là, en recherche, on trouve rien, mais en clinique, tout le monde dit ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas. Mm-hmm. Puis, en fait, sûrement qu'il y a plein d'autres facteurs qui vont influencer le perfectionnisme qu'on n'a pas pris en compte, qui sont pas nécessairement seulement la douance. Moi, ce que je pense en ce moment, c'est juste que la douance, c'est un terrain fertile pour développer un perfectionnisme qui va peut-être nous nuire, peut-être être difficile à vivre. Mais c'est pas nécessairement la douance qui va créer le perfectionnisme, c'est comme la douance qui va entraîner plein d'autres facteurs mm-hmm. qui vont peut-être influencer le développement du perfectionnisme.
C'est ça. Puis dans ce que tu dis comme exemple très concret du perfectionnisme, je me dis, entre les deux, tu sais, si par exemple c'est une étude où les différentes personnes autour de la personne douée constatent un perfectionnisme, la personne qui, elle, consulte, quand on regarde peut-être le constat clinique, bien, pour elle, peut-être qu'elle ne perçoit pas comme étant du perfectionniste parce que c'est ses standards qui sont plus élevés que la norme. Mais quand tu regardes à l'externe, bien, cette perception-là, justement, elle fait qu'on se dit, bien, vraiment, vraiment perfectionniste, cette personne-là. Fait que c'est ça, c'est la complexité dans les différents points de vue aussi
avec ces méthodes-là. Oui, c'est sûr que peut-être que la personne, pour elle, c'est juste normal d'avoir des mm-hmm. attentes élevées. Mais c'est ça, c'est comme, ça dépend comment t'as été élevé depuis ton enfance, là. Si, par exemple, t'avais de la facilité puis les gens avaient des attentes élevées envers toi, ben peut-être qu'en vieillissant, t'as intériorisé ces attentes-là. Mm-hmm. Dans le fond, sont devenues les tiennes. T'sais, tu t'es dit, ben tout le monde a des attentes élevées envers moi, donc moi aussi, là, je veux atteindre ce niveau-là. Je sais que je suis capable, par exemple.
Ouais, puis le perfectionnisme, je veux dire, c'est un très bel exemple parce que c'est un mot qui a perdu beaucoup de... Tu sais, qui est assez désincarné. Je veux dire, c'est à la blague, on va souvent dire que c'est le défaut qu'on dit dans une entrevue d'embauche. Je suis trop perfectionniste. Ça veut plus rien dire. Puis à la limite, être perfectionniste n'est pas nécessairement inhérent à la personne en tout temps, à tout instant. On peut être plus ou moins perfectionniste dans certains contextes, à certains moments, selon les ressources. Je veux dire, ça commence à manquer de sens, à la limite, juste dire perfectionniste pour perfectionniste. Là.
Ouais, puis ça me rappelle, je m'en rappelle pas si j'en avais parlé dans l'épisode un moment donné, mais quand j'avais été consultée jadis, avant d'avoir mes évaluations, ma psy, à cette époque, elle est comme, mais tu sais, savais-tu que t'es perfectionniste? J'étais comme, de qu'est-ce que tu parles? Je suis pas perfectionniste, moi, tu sais, comme Pareto, 80-20, ah oui, let's go, là, c'est comme ça que ça marche la vie, tu sais.
Je pense que tu as dit les choses exactement dans le même verbatim.
Probablement, exactement.
J'adore.
OK, je m'auto-cite verbalement. Alors que quand je suis arrivée à la maison, puis là, je suis allée voir mes parents cette fin de semaine-là, puis je dis ça à ma mère, puis mon frère se met à rire. Ma mère est comme, ben voyons donc, tu savais pas ça. Genre, tu beurres tes toasts comme égales sur chacun des côtés. Comme... fait que tu sais, cette zone aveugle-là, des fois, tu sais, ça... Puis moi, ça m'a jamais nui, cette perception peut-être d'être perfectionniste, mais ça nuisait aux autres autour de moi, par exemple.
Mm-hmm.
Tu sais, mes attentes... Mon 80-20 à moi, c'était peut-être le 99-1 de quelqu'un d'autre. Ça, c'est fait que bon, excusez, j'ai versé dans l'anecdotique, mais c'est juste, en tout cas, je trouvais que ça illustrait un peu ce qui t'apportait.
Ben oui, puis le perfectionniste, ça a plein de facettes différentes. Là. Par exemple, on a un perfectionniste envers nous-mêmes. Mm-hmm. On a un perfectionniste qui va être, par exemple, d'avoir des hauts standards ou ça peut être envers les autres, d'avoir des attentes élevées envers les autres. Ça peut être un perfectionniste qu'on ressent au niveau sociétal. Donc, par exemple, là, je regarde le perfectionniste en ce moment chez les parents. Et, tu sais, on peut se dire, ben moi, j'ai envie d'être un vraiment bon parent. Puis quand je sens que je suis pas un bon parent, ben là, je me sens mal. Ou je peux percevoir que mon partenaire ou ma partenaire a des attentes extrêmement élevées envers mon parenting. parce que cette personne-là veut que je sois un parent parfait, ou ça peut être la société at large, là, tu sais, comme on met tellement de pression sur les mères, sur les pères, là, on doit faire plein de trucs particuliers, puis là, si tu fais pas ça, ben là, tu te sens coupable. Fait que le perfectionniste aussi, là, a plein de nuances et plein de niveaux différents, là, que ça soit moi, mon partenaire, là, ma communauté, etc.
L'arbre est dans ses feuilles, Marie-Lou Marley.
Oui, c'est ça.
Parle-moi pas, Mélissa.
C'était tellement evil, mon enfant.
Mélissa, elle aime bien provoquer dans mon cerveau du popcorn de temps en temps comme ça. Donc, elle commence à connaître certaines chansons, certains mots qui sont très efficaces pour me lancer.
mais tu sais, dans tout ça, parce que... Écoute, je me rappelle pas si c'était avec toi que je parlais de ça, mais je pense que non. Quelqu'un m'avait dit que avec les personnes douées, souvent, c'est des personnes qui avaient comme plus d'enfants ou plus de facilité à avoir des enfants dans... Alors qu'on penserait que quelqu'un doué, peut-être que c'est comme... C'est pas au même niveau des attentes peut-être intellectuelles d'une personne douée d'avoir comme 3-4 enfants.
C'est la première fois que j'entends cette information-là, je tiens à le dire.
Mais là, je garoche ça. Quelqu'un m'a dit ça. T'as-tu entendu ça, toi?
En fait, j'ai lu une recension de littérature récemment là, qui a été publiée en 2015, là, fait que ça commence quand même à dater. Mais eux, ils disaient que c'était le contraire, en fait, là, que les personnes douées intellectuellement avaient moins d'enfants, puis souvent se mariaient moins, avaient tendance à avoir un délai dans ces étapes de vie-là. Mais en fait, leur explication à eux, c'était que probablement qu'ils étudiaient plus longtemps. En fait, on sait qu'ils étudient plus longtemps.
C'est
ça exactement, que le fait d'étudier longtemps, mais ça peut retarder, par exemple, le mariage, la famille, tout ça. Par contre, je tiens à dire que les études qui avaient été incluses là, dans cet article-là dataient. Donc, il y avait aussi des concepts qui étaient très stéréotypés au niveau du genre, là, comme les hommes choisissent plus les carrières en sciences, en technologie, en mathématiques. Les femmes avaient plus tendance à choisir des trucs sciences sociales et tout ça. Ben, tu sais, je veux dire, ces stéréotypes-là perdurent encore aujourd'hui, là, mais c'était vraiment exacerbé, disons, dans ces études-là. Donc, je pense qu'on bénéficierait d'avoir des nouvelles études sur les adultes doués.
Puis j'ai même envie, là, vous excuserez ma petite rébellion, mais j'ai même envie de dire que ces idées de est-ce que les personnes douées ont plus ou moins d'enfants, plus ou moins de familles, s'inscrivent quand même dans une vision très corridor de ce que devrait être le développement humain, qui est cette notion qui est de trouver un partenariat, développer une famille, acheter une maison, adopter un chien. Là, je veux dire, il y a comme une espèce de modèle qui nous est beaucoup, beaucoup inculqué depuis qu'on est jeune, un modèle très normatif, très monogame, très capitaliste aussi dans plein de sphères. Donc, c'est quand même un biais qu'on porte tous autant qu'on est, de se dire on va comparer face à ça, on va comparer est-ce qu'ils sont en retard dans une certaine trajectoire qui est normée.
Absolument.
Bon, excusez, c'est ma rébellion du jour.
Non, puis écoute, honnêtement, c'est du food for thought, ça m'a comme popé en mode popcorn, puis j'ai eu envie d'amener ça de même, là, mais...
J'aime ça quand tu fais ça. Moi, j'aime beaucoup aller questionner le cadre de référence en soi beaucoup plus que qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur.
Ouais. Puis en même temps, on en parle plus ou moins hein, de tout l'aspect famille, puis dans le podcast, en tout cas jusqu'à présent, pour bon, différentes raisons. Mais toi, comme t'étudies ça, justement, là, est-ce que t'as envie de nous raconter un peu tes intérêts dans les dynamiques? Je pense que, tu sais, on avait parlé aussi que dans tes intérêts, tu sais, l'espèce de passage du système scolaire à la vraie vie aussi, cette espèce de gap-là qu'on avait traité dans l'épisode 10 là, avec Malvina, ça fait partie aussi de tes champs d'études.
Oui, c'est ça. Moi, j'étudie vraiment les relations, par exemple, durant la petite enfance. Là, j'ai regardé, par exemple, dans les premières années de vie, puis comment ça va... ben en fait, influencer, si on veut, le développement de l'enfant après. Mais le développement humain, là, c'est jusqu'à la fin de la vie. Hein. Donc, on étudie vraiment plein de périodes différentes. Et entre autres, dans le laboratoire où je fais mon doctorat à l'UQAM, le LEPSIS, on s'intéresse beaucoup à la période de l'émergence de l'âge adulte. C'est comme une période un petit peu floue, là, je dirais comme 18-30 ans. Effectivement, là, on parle de populations plus comme américaines ou occidentales, là, parce que c'est différent dans d'autres cultures. Mais nous, on a comme une période, là, où des fois, les gens appellent ça comme l'adolescence. En anglais, c'est « emerging adulthood ». Puis effectivement, c'est drôle parce qu'on va passer d'un d'un milieu qui est très strict, si on veut, là, l'école, où mm-hmm. on a des barèmes, c'est très rigide. Puis là, ensuite, nous, au Québec, on a le cégep, qui est 2 ans, où on est un petit peu perdu, on sait pas trop où on s'en va, on se prépare pour la suite, puis ensuite, certaines personnes vont à l'université ou d'autres non. Mais c'est une période très particulière où il y a plein de bouleversements. Les gens, souvent, vont quitter le nid familial, donc mm-hmm. vont commencer à être plus autonomes, indépendants, avoir un travail, les premières relations amoureuses, parfois les enfants. C'est vraiment une période qui est particulière. Puis, ça m'intéresse au niveau des relations, bien sûr, là, parce que ça évolue. Souvent, la personne plus significative ne sera plus nécessairement dans notre famille mm-hmm. biologique, si on veut. Mais aussi, par exemple, pour la douance, je me dis, si on donne des accommodements très, très intenses au primaire, au secondaire, mais qu'est-ce qui se passe après?
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, si t'as eu, mettons, un programme enrichi, là, super le fun, avec plein d'accommodements, puis là, on te retourne au cégep normal, là.
Je veux-tu que Mélissa et moi te fassent notre anecdote, ou tu pourrais...
Oui, oui, vas-y.
Dire... De la semaine... Non, non, mais... Dans ça, on a parlé exactement ça la semaine passée. C'était le clash que Mélissa et moi avons vécu. C'était le système scolaire enrichi avec énormément de rétroactions, de jalons dictés, guidés par l'environnement. Ah, va au cégep puis autogère-toi. Ça a été une chute monumentale.
Mais c'est difficile, là. C'est comme une perte de repère.
Mm-hmm. C'est ça. Puis tu sais, avec le travail qu'on fait, moi, dans mes angles d'intérêt avec la neurodiversité puis son inclusion pour les milieux de travail, mais c'est tous ces enfants-là puis ces jeunes adultes-là qui, contrairement à nous qui sont plus vieilles, on ne se cachera pas, on est plus vieilles, qui ont eu des diagnostics pour plusieurs personnes plus tardivement dans la vie, ces personnes-là vont arriver sur le marché du travail avec des diagnostics, avec des mesures adaptatives qui ont été mises en place à l'école. T'sais, par exemple, dans le cas de personnes douées qui ont fait des programme enrichi comme nous autres, mais c'est comme une mesure adaptative, je veux pas en soi, mm-hmm. mais pas en lien avec une situation de handicap, mais ça pourrait être comparatif, tu sais. Fait que là, ces personnes-là se retrouvent sur le marché du travail puis là, les gestionnaires vont devoir vivre avec le fait que quelqu'un arrive, puis ça se peut qu'il parle ouvertement de « ben, j'ai un TDAH, ben, je suis douée, puis voici comment je fonctionne, puis comment est-ce qu'on peut s'acclimater là-dedans », alors qu'en ce moment, c'est encore très tabou, tu sais. Fait que justement, dans ta perception de la chose, comment est-ce que tu vois que les choses devraient, vont, peuvent évoluer dans cette période-là pour les employeurs, pour les personnes quand ils cherchent un emploi?
J'allais faire du pouce, oui, sur ce que tu dis, Mélissa, j'ai 150 idées encore. Je m'excuse parce que ça va faire la même question à Catherine, mais j'avais juste le goût de dire, sauf qu'on a encore un enjeu de complexité, parce que là, on parle de cette idée de personnes qui, oui, ont eu un diagnostic ou une confirmation plus jeune, mais là, tu vas avoir une construction identitaire différente, tu vas avoir oui. comment la famille va interagir autour de ça, il va avoir la théorie de l'attachement qui va embarquer aussi, il y a tellement, tellement de choses, je suis même pas sûre qu'on peut avoir une réponse, fait que je voulais enlever un peu la pression de Catherine de répondre à ta question.
Mais je pense que ça va être quelque chose à découvrir, là, parce que j'ai l'impression que, disons, la nouvelle génération là, qui sort de l'école là, ou de la réforme et tout ça, on a une autre façon un petit peu de voir la vie, de voir le travail. Je pense que c'est pas juste dans la neurodiversité, mais même dans la conception du travail, mmh. en tout cas mmh. de moi, ce que je vois autour de moi. Les gens veulent s'épanouir, puis on revient un peu à la psychologie positive, mais c'est comme tellement important là, pour plusieurs personnes, que le travail ait un sens, qu'il y ait un équilibre de vie, là, qu'on fasse pas juste travailler, que nos relations, on en prenne soin. Mais ça, je pense que ça va être confrontant là, pour les personnes qui doivent les engager et les superviser.
Parce qu'on voit un peu le clash des générations hein, là-dedans, tu sais, là, les X contre les milléniaux, contre les Z, contre...
mais c'est ça,
Les guerres de mime,
exact, il y a des phénomènes générationnels et des phénomènes sociétaux à travers tout ça. Là, tu parles de la conception du travail, tu sais, je veux dire, la pandémie est venue accélérer quelque chose qui était déjà en mouvance, qui est venue peut-être provoquer une tangente aussi dans la trajectoire, mais il y a comme tellement de mouvances qui se font de manière simultanée sans trop se consulter, puis on est comme constamment en train de se réajuster là-dedans finalement. Puis là, si... Je vais me permettre de faire, pas ma Germaine du temps pour une fois, mais ma récapitulatrice en chef, là, parce que j'aime ça qu'on a fait beaucoup de kilométrage cognitif avec Catherine. Là. Donc, on est parti un peu de la définition de la psychologie positive. On a passé par les nuances et les complexités de la recherche, spécifiquement recherche sociale. On a fait un petit pit stop au niveau de la complexité humaine. On est revenu plus au niveau de la douance. Puis là, on est en train de revisiter la vie au complet et de poser des grandes questions existentielles. Mais si je ramène un peu tout ça dans une espèce de tout, parce que je vois le temps qui file, puis je ramène du temps sans mal quand même un peu. Moi, j'entends beaucoup la psychologie positive qui peut être un peu une trame de fond ou une façon de nous raccrocher, peu importe la complexité ou les nuances de la personne.
Mm-hmm. Mais en fait, c'est comme l'idéal, hein? On veut que les gens s'épanouissent, qu'on trouve un certain bien-être, une raison de vivre en réalité, là, un sens. Oui, donc ça s'applique à tellement de facteurs ou de sphères de vie, que ce soit le travail, que ce soit l'école, les relations, le développement. Parce qu'en fait, on dit que la psychologie positive, c'est nouveau, mais dans le domaine du développement humain, ça a toujours été ça qu'on voulait. Là. En fond, que les enfants se développent de la meilleure façon possible. Oui, effectivement, là, ça recouvre un petit peu tout.
Parce que je me dis, est-ce que ça peut nous ramener peut-être plus, je crois, à cette convergence qu'on voulait faire dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est au niveau de la douance, comment la psychologie positive peut amener un soutien, Mélissa? Là, je t'adresse un peu la question et je construis mon idée en même temps que je te parle, mais...
Ouais, ben je me dis, oui, c'est ça, apporter un soutien, puis je pense que finalement, tu sais, des fois, on dit, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, puis comment qu'on va se rendre là, mais ça va aller en quelque part, puis tu sais, tout fait du sens, parce que tout est dans tout, puis tu sais, c'est ça, cette idée-là de, bon, ben la recherche est complexe, on essaie de comprendre les boîtes secrètes avec les différentes recherches, on dirait qu'on va justement le creuser pour individualiser le plus possible, puis en même temps, mais comme tout est interrelié, ça, on peut comme pas faire ça dans la vraie vie. Fait que quand on essaie de s'y retrouver, nous, comme commun des mortels qui n'a pas un doctorat, ça devient compliqué. Fait que de revenir, c'est ça, avec, par exemple, les grands postulats de la psychologie positive, puis après ça, comment est-ce que ça s'applique dans la vie de tous les jours pour une personne neurodivergente, une personne douée, puis toi, c'est beaucoup plus ta spécialité. Puis de peut-être partir avec un... C'est ça, une espèce de petit package de « Ah, voici ce que je peux faire maintenant » en sachant ça sur la psychologie positive, tu sais.
Est-ce qu'on est capable de se faire une espèce de mini boîte à outils d'ici la fin de l'épisode? Telle est la question.
Ben oui, il y a tellement d'exercices de psychologie positive qu'on peut faire au jour le jour. Là, je vais vous en donner quelques-uns rapidement. Par exemple, il y a la gratitude qui est beaucoup, beaucoup étudiée. Fait que ça, par exemple, ça peut être à chaque jour ou ça peut être pendant une semaine. On se dit, ben chaque jour, je vais trouver quelque chose pour lequel je ressens de la gratitude. Ça peut être seulement qu'il fait vraiment beau dehors, que la température est belle, que j'ai un chat que je peux flatter, que j'ai une maison, que j'ai un toit sur ma tête, qu'au final, j'ai un amoureux ou une amoureuse. Donc, de reconnaître un petit peu qu'est-ce qui va bien dans notre vie. Sinon, il y a l'autocompassion que moi, j'adore, qui est en fait d'être vraiment gentil envers nous-mêmes, de se donner la bienveillance qu'on donnerait à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il y a la présence attentive, donc d'essayer de faire certaines activités en pleine présence, que ce soit manger, marcher dehors, n'importe quoi, là, c'est pas obligé d'être assis les yeux fermés. Là.
Tout ce qui est dur pour un TDAH, là.
Oui!
Voilà.
Excusez! Non, mais c'est vrai, mais c'est des activités, c'est des entraînements. On dit que la présence attentive, c'est un entraînement, donc parfois c'est 2 secondes dans notre journée, des fois c'est 2 minutes, des fois c'est 1 heure, mais c'est vraiment dans la comparaison là, qu'on le fait. Puis sinon, il y a les forces, donc... Sur Internet, on peut faire le questionnaire de force, le VAIA Strength Questionnaire. Puis ça nous fait connaître nos propres forces signatures, comme on va dire. Par exemple, ça peut être l'honnêteté, le besoin de justice, l'amour de l'apprentissage, justement la gratitude, la spiritualité. Ça, en fait, de reconnaître nos propres forces, puis comment on peut s'en servir dans notre travail ou dans nos relations.
C'est ça. Puis moi, je l'utilise beaucoup en coaching, cet outil-là. C'est vraiment pratique pour établir le dialogue, voir... Tu sais, des fois, il y a des forces qui rentrent comme en contradiction aussi, puis si on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi que... Tu sais, quelque chose est si important pour nous, puis on a autant de difficultés pour X, Y, Z raisons, là. Mais... Puis tu sais, quand tu parles justement de la gratitude, bien, la gratitude, ça prend plein de formes. Puis dans le VIA, par exemple, tu sais, le fait d'avoir une grande appréciation de la beauté, c'est aussi une forme de gratitude qu'on peut peut-être pas nécessairement penser à premier abord.
Mm-hmm. Mais oui, puis ça peut être la beauté dans les petites choses. Hein. Par exemple, s'il y a une neige, ben on peut regarder les flocons puis trouver ça tellement beau, la symétrie. Ça peut être une fleur qu'on regarde dans notre jardin. T'sais, c'est pas obligé d'être des trucs vraiment compliqués.
Non, moi, les premières neiges, je les vis toujours très intensément. Vous n'avez même pas idée.
Mais il y a tellement de beauté dans les petites choses du quotidien. Ça peut être de faire des choses qui nous font vraiment plaisir. Souvent, on va parler du fun, là, des émotions dites agréables, donc de rire, l'humour. C'est toutes des choses qu'on va mettre de l'avant en psychologie positive.
Puis, j'ai envie de pick your brain à nouveau, Catherine. Là, tu parlais d'autocompassion. Je trouve que c'est quelque chose qu'on entend souvent, qui est souvent mis de l'avant comme un moyen, mais que je trouve pas toujours très concret à mettre en pratique. Comme, à part me dire, bon, qu'est-ce que je dirais à mon ami qui est dans la même posture, je sais pas toujours comment pratiquer l'autocompassion, surtout dans les moments plus où on est plus vulnérable. On dirait que c'est... Je sais pas s'il y a des trucs que tu connais ou des exercices qui le facilitent.
Oui, mais en fait, ça peut être d'écrire une lettre. Donc, d'écrire une lettre en pensant à quelqu'un qu'on aime. Fait que, tu sais, mettons que j'ai vécu une situation difficile, je sais pas, là, ce qui me vient en tête, d'échouer un examen, disons, là, parce que là, je suis étudiante, fait que c'est ça qui me vient en tête. Et puis là, je me sens donc bien mal, là, je me trouve donc bien poche, en fait, d'avoir échoué mon examen. Mais là, je pourrais écrire une lettre en pensant, par exemple, à quelqu'un que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je lui dirais si ça arrivait à cette personne-là? Puis vraiment de l'écrire, là, pour vrai, comme physiquement. Ouais. Sinon, il y a l'aspect physique aussi, là, que Christine Neuf, qui est la chercheuse qui travaille là-dessus, met beaucoup de l'avant, fait que sensoriel, là, fait que ça peut être de prendre un bain, ça peut être d'écouter une musique qu'on aime beaucoup, de se toucher, par exemple, de se donner un câlin à nous-mêmes, t'sais, de se masser nous-mêmes, t'sais, vraiment quelque chose de sensoriel, elle met beaucoup ça de l'avant. Sinon, effectivement, le moment présent, là, d'essayer d'être pleinement présent, comme manger, je sais pas si j'ai envie de manger un biscuit, ben manger un biscuit, mais vraiment regarder mon biscuit, le sentir, le mettre dans ma langue, le sentir fondre, tu sais, vraiment de revenir au monde matériel, tu sais, à nos sensations. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un travail continu, là, c'est vraiment pas évident, puis on est tellement comme conditionné à être difficile envers nous-mêmes, à être critique, à se juger, c'est pas quelque chose qui se déconstruit facilement.
Non, puis je fais des parallèles aussi avec différents trucs. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui vit une crise d'anxiété, une attaque de panique, tu sais, il y a le truc de trouver 5 choses, tu sais, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu peux toucher, qu'est-ce que tu vois, puis de recentrer dans ton moment présent. En tout cas, je fais un lien peut-être boiteux ou pas par rapport à ce que tu viens d'apporter.
Non, c'est vraiment en lien avec ça.
Oui, hein? OK. Puis avec la psychologie positive, puis ça me ramène plein de flashbacks parce que c'est déjà des réflexions que j'avais eues, mais... Puis là, j'embarque pas dans la religion, mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre la psychologie positive et le bouddhisme.
C'est les notions de méditation, souvent.
C'est ça, la pleine conscience, l'appréciation du moment présent. En tout cas, je trouve ça intéressant de voir qu'un courant aussi vieux que le bouddhisme a autant de similitudes avec un courant aussi nouveau que la psychologie positive à certains égards, pas à tous les égards. Puis ça dépend aussi des courants bouddhistes. Pas tous les courants vont être comme ça, mais ouais.
Ce que je comprends, Catherine, de toute façon, c'est pas comme si c'était des nouvelles informations. Comme tu disais tantôt, on a toujours voulu amener l'être humain vers son plein potentiel et son bien-être. C'est plus qu'on a commencé à la conceptualiser plus récemment, finalement, de manière théorique.
Ouais, mais en fait, de manière empirique, parce que, mettons, les théories, c'est un peu comme, on va dire une théorie, c'est comme une grande idée. Oui. Fait qu'effectivement, tu sais, mettons, si on pense au bouddhisme ou à la théorie humaniste et tout ça, tu sais, c'est vrai que c'est des idées qui sont tellement vieilles, en réalité, là, c'est tellement pas nouveau. Mais là, ce qu'on fait, c'est essayer vraiment de faire des études empiriques, scientifiques, méthodologiques, tu sais, super clean, si on veut. Mais par exemple, tantôt, je parlais de Christine Neff, là, qui est derrière le concept d'autocompassion en science. Puis elle le dit là, dans son livre qui s'appelle « S'aimer » en français. Là, c'est un drôle de titre. Mais elle raconte en fait que son idée est venue de ça. Là, elle est allée en Asie, là, elle a fait des retraites, sûrement de méditation et de choses comme ça, plus bouddhiste. Puis que c'est de là qu'est venue son idée d'étudier l'autocompassion de façon empirique. De façon américaine, si on peut dire. Mais ça vient pas de son esprit. Un jour, elle a décidé d'étudier ça. Elle est allée, effectivement, en Asie, puis elle s'est basée sur les écrits. Donc, je pense que c'est important, effectivement, de reconnaître la part de... de la religion là, là-dedans, si on veut.
Ben, la spiritualité, à la limite, si on ne veut pas être dans le propos religieux. Là.
Ouais.
C'est intéressant. Ouais. Puis, j'allais dire, honnêtement, cet épisode fut une aventure. Là. Je vois le temps achève, puis comme, je suis même pas sûre sur quoi je veux conclure, parce qu'on n'est pas du tout ce que je pensais qu'on irait, puis c'est beau comme ça. Je suis pas malheureuse de la situation. Mais Mélissa, mettons que tu voudrais dégager un apprentissage de ton épisode aujourd'hui avec Catherine, ce serait quoi?
Écoute, moi, de mon côté, je trouve que tout ce qu'on a discuté, c'était toutes des zones nouvelles de... Honnêtement, je qualifierais l'épisode de boîte de Pandore. Je pense qu'on a mis le doigt sur plein de choses super intéressantes qui fait que, tu sais, honnêtement, Catherine, je pense que je pourrais m'asseoir avec toi puis payer un tout inclus dans le sud puis parler avec toi pendant 2 semaines non-stop, là, tu sais, comme... Je trouve que t'es une femme passionnante puis il y a tellement de choses dans ta tête. Fait que j'ai l'impression que c'est vraiment un moment d'être curieux par rapport à des nouvelles choses, puis de garder l'esprit ouvert, puis de garder un esprit critique aussi par rapport à tout ça. Je pense que c'est ça le takeaway que je voulais vraiment amener en t'invitant ici. Mais je me dirais, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, tu es je cherche le meilleur mot parce que... Mais je sais pas, j'ai envie de dire, t'es comme une bombe de contenu, mais t'es comme une bête de contenu. Tu sais, je te regarde aller sur Instagram, là, puis je pense que la première fois qu'on s'est écrit, j'étais comme, mais comment fais-tu? Genre, moi, je comprends pas, là. Mais c'est ça, tu sais, quelqu'un qui serait vraiment curieux d'en savoir plus, tu sais, où est-ce qu'on peut te suivre? Quel genre de contenu on peut savourer de tes productions à quels différents endroits?
Je suis très active sur Instagram, effectivement, donc surtout sur le compte douance.science. Mm-hmm. Puis sinon, je donne souvent des entrevues, là, que ce soit en podcast ou des conférences, des choses comme ça. Ouais, fait que je pense que ça, c'est vraiment la meilleure façon.
Super. Puis c'est ça, tu as eu aussi un podcast. Est-ce que tu continues de le faire vivre ou c'était plus un projet passé?
On dirait que je suis jamais certaine de quoi répondre à ça, là. Dans le fond, quand j'ai des invités que je vais inviter, ouais, c'est un peu redondant comme dit comme ça, mais quand j'ai des idées, là, d'entrevues, des choses comme ça, je publie des entrevues, mais effectivement, je suis comme pas très régulière, là, parce que mon horaire est tellement chargé. Mais oui, c'est vrai, j'ai un podcast que j'oublie parfois, là, qui s'appelle Entrepilar, où j'interviewe des amis, là, des chercheurs et chercheuses, souvent doctorantes, là, en fait, puis on parle de plein de sujets différents.
Bon, parfait. Fait qu'on va tout linker ça. Fait que même si c'est des pépites de podcast de temps à autre ou du contenu très, très, très en continu sur Instagram, là, il y a moyen de binger ton contenu aussi pour en savoir plus puis découvrir plus sur la psychologie positive puis la douance parce que c'est vraiment ça le contenu que tu apportes. Puis c'est toujours, tu sais, tu mets toujours tes sources, c'est toujours du très beau contenu aussi. Je trouve que tu mets beaucoup d'amour visuel dans ce que tu produis, là.
Merci, mais oui, aussi je suis impliquée avec l'Association québécoise pour la douance oui, et le Regroupement québécois pour la psychologie positive. Ouais, c'est ça. En fait, là, j'ai plein de trucs. Là. Par exemple, on travaille aussi sur un projet qui s'appelle Vérité ou quoi qui va être sur la douance durant 2022, là, mais plus la deuxième moitié. Donc, en tout cas, je vais vous tenir au courant sur les réseaux sociaux. Mais je voulais vous féliciter aussi pour votre podcast parce que je trouve ça tellement rafraîchissant et tellement intéressant à écouter. C'est vraiment une conversation qui est importante et qui n'avait pas lieu avant. Là, donc, félicitations pour ça.
Oh, merci beaucoup, vraiment. Moi, je me sens choyée que tu aies participé à notre émission aujourd'hui. Puis, j'ai l'impression qu'on a comme mis la table. On a comme fait un petit peek-a-boo, genre dans une multitude de sujets. J'ai juste envie d'en savoir plus. Honnêtement, moi, ça a juste comme piqué ma curiosité intellectuelle, puis je vais aller me perdre dans des lectures telles que je le fais tout le temps. Mais merci pour nous avoir fait découvrir ton univers, puis la psychologie positive. Je suis contente de l'avoir d'un autre œil, parce que je pense que j'y avais beaucoup accès, parce qu'il était très marketing autour de la psychologie positive. Puis ça amène un regard qui me rejoint un peu plus là, au niveau des concepts de la recherche. Donc, voilà.
Et merci beaucoup. Puis merci. Comme toujours, on met tous les liens en commentaire puis sur notre site web. Puis n'hésitez pas à aller liker tout de suite ce que Catherine fait, ça vaut la peine.
Exactement. Donc, bonne semaine et à bientôt. Bye!
Bye!
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.